Chapitre 2. La rue. Je m'avançais d'un pas pénible et mal assuré vers le but de ce convoi tragique. Charles Nodier, Smara. Ce règne, dont nous vous voulons peindre quelques années, règne de faiblesse qui fut comme une éclipse de la couronne entre les splendeurs de Henri IV et de Louis le Grand, afflige les yeux qui le contemplent par quelques souillures sanglantes. Elles ne furent pas toute l'œuvre d'un homme, de grands corps y prirent part. Il est triste de voir que, dans ce siècle encore désordonné, le clergé, pareil à une grande nation, eut sa populace, comme il eut sa noblesse, ses ignorants et ses criminels, comme ses savants et vertueux prélats. Depuis ce temps, ce qui lui restait de barbarie fut poli par le long règne de Louis XIV, et ce qu'il y eut de corruption fut lavé dans le sang des martyrs qu'il offrit à la Révolution de 1793. Ainsi, par une destinée toute particulière, perfectionnée par la monarchie et la République, adoucie par l'une, châtiée par l'autre, il nous est arrivé ce qu'il est aujourd'hui, austère et rarement vicieux. Nous avons éprouvé le besoin de nous arrêter un moment à cette pensée avant d'entrer dans le récit des fêtes que nous offre l'histoire de ces temps, et malgré cette consolante observation, nous n'avons pu nous empêcher d'écarter les détails trop odieux en gémissant encore sur ce qui reste de coupables actions, comme en racontant la vie d'un vieillard vertueux, on pleure sur les emportements de sa jeunesse passionnée ou les penchants corrompus de son âge mûr. Lorsque la cavalcade entra dans les rues étroites de Loudun, un bruit étrange s'y faisait entendre, elles étaient remplies d'une foule immense. Les cloches de l'église et du couvent sonnaient de manière à faire croire à un incendie, et tout le monde, sans nulle attention aux voyageurs, se pressait vers un grand bâtiment attenant à l'église. Il était facile de distinguer sur les physionomies des traces d'impressions fort différentes et souvent opposées entre elles. Des groupes et des attroupements nombreux se formaient, le bruit des conversations y cessait tout à coup, et l'on n'y entendait plus qu'une voix qui semblait exhorter ou lire, puis des cris furieux mêlés de quelques exclamations pieuses s'élevaient de tous côtés. Le groupe se dissipait, et l'on voyait que l'orateur était un capucin ou un récollet qui, tenant à la main un crucifix de bois, montrait à la foule le grand bâtiment vers lequel il se dirigeait. « Jésus-Maria !» s'écriait une vieille femme. « Qui aurait jamais cru que le malin esprit eût choisi notre bonne ville pour demeure ?»« Est-ce que les bonnes Ursulines eussent été possédées ?» disait l'autre. On dit que le démon qui agite la supérieure se nomme Légion, disait une troisième. Que dites-vous, ma chère? Interrompit une religieuse. Il y en a sept dans son pauvre corps, auquel sans doute elle avait attaché trop de soins à cause de sa grande beauté. À présent, il est réceptacle de l'enfer. Monsieur le prieur des Carmes, dans l'exorcisme d'hier, a fait sortir de sa bouche le démon Éasas, et le révérend père Lactance a chassé aussi le démon Béhérite. Mais les cinq autres n'ont pas voulu partir, et quand les saints exorcistes, que Dieu soutienne, les ont sommés en latin de se retirer, ils ont dit qu'ils ne le feraient pas, qu'ils n'eussent prouvé leur puissance, dont les huguenots et les hérétiques ont l'air de douter. Et le démon Élimie, qui est le plus méchant, comme vous savez, a prétendu qu'aujourd'hui il enlèverait la calotte de M. de Laubardemont et la tiendrait suspendue en l'air pendant un miséréré. « Ah, Sainte Vierge !» reprenait la première. « Je tremble déjà de tout mon corps. Et quand je pense que j'ai été plusieurs fois demander des messes à ce magicien d'Urbain !»« Et moi ?» dit une jeune fille en se signant. « Moi qui me suis confessée à lui il y a 10 mois !» J'aurais été sûrement possédée sans la relique de Sainte Geneviève que j'avais heureusement sous ma robe et... » Et sans reproche, Martine, interrompit une grosse marchande, vous étiez restée assez longtemps pour cela, seule avec le beau sorcier. Eh bien, la belle, il y a maintenant un mois que vous seriez dépossédée, dit un jeune soldat qui vint se mêler au groupe en fumant sa pipe. La jeune fille rougit et ramena sur sa jolie figure le capuchon de sa pelisse noire. Les vieilles femmes jetèrent un regard de mépris sur le soldat, et comme elles se trouvaient alors près de la porte d'entrée encore fermée, elles reprirent leur conversation avec plus de chaleur que jamais, voyant qu'elles étaient sûres d'entrer les premières, et s'asseyant sur les bornes et les bancs de pierre, elles se préparèrent par leur récit au bonheur qu'elles allaient goûter d'être spectatrices de quelque chose d'étrange, d'une apparition ou au moins d'un supplice. « Est-il vrai, ma tante ?» dit la jeune Martine à la plus vieille. « Que vous ayez entendu parler les démons ?»« Vrai comme je vous vois, et tous les assistants en peuvent dire autant, ma nièce. C'est pour que votre âme soit édifiée que je vous ai fait venir avec moi aujourd'hui, » ajouta-t-elle. Et vous connaîtrez véritablement la puissance de l'esprit malin. Quelle voix a-t-il, ma chère tante ? Continua la jeune fille, charmée de réveiller une conversation qui détournait d'elle les idées de ceux qui l'entouraient. Il n'y a pas d'autre voix que la voix même de la supérieure à qui Notre-Dame fasse grâce. Cette pauvre jeune femme, je l'ai entendue hier bien longtemps. Cela faisait peine de la voir se déchirer le sein et tourner ses pieds et ses bras en dehors, et de les réunir tout à coup derrière son dos. Quand le Saint-Père Lactance est arrivé et a prononcé le nom d'Urbain Grandier, l'écume est sortie de sa bouche, et elle a parlé latin comme si elle lisait la Bible. Aussi, je n'ai pas bien compris, et je n'ai retenu que « Urbanus Magicus Rosas Diabolica », ce qui voulait dire que le magicien Urbain l'avait ensorcelé avec des roses que le diable lui avait données, et il est sorti de ses oreilles et de son cou des roses couleur de flamme qui sentaient le soufre, au point que monsieur le lieutenant criminel a crié que chacun ferait bien de fermer ses narines et ses yeux parce que les démons allaient sortir. « Voyez-vous cela ? » crièrent d'une voix glapissante et d'un air de triomphe toutes les femmes assemblées, en se tournant du côté de la foule, et particulièrement vers un groupe d'hommes habillés en noir, parmi lesquels se trouvait le jeune soldat qui les avait apostrophés en passant. « Voilà encore ces vieilles folles qui se croient au sabbat, » dit-il, « et qui font plus de bruit que lorsqu'elles y arrivent à cheval sur un manche à balai. » « jeune homme, » dit un bourgeois d'un air triste, « ne faites pas de ces plaisanteries en plein air. » « Le vent deviendrait de flammes pour vous par le temps qu'il fait. »« Ma foi, je me moque bien de tous ces exorcistes, moi, » reprit le soldat. « Je m'appelle Grand Ferré et il n'y en a pas beaucoup qui aient un goupillon comme le mien. » Et prenant la poignée de son sabre d'une main, il retroussa de l'autre sa moustache blonde et regarda autour de lui en fronçant le sourcil. Mais comme il n'aperçut dans la foule aucun regard qui cherchât à braver le sien, il partit lentement en avançant le pied gauche le premier et se promena dans les rues étroites et noires avec cette insouciance parfaite d'un militaire qui débute et un mépris profond pour tout ce qui ne porte pas son habit. Cependant, 8 ou 10 habitants raisonnables de cette petite ville se promenaient ensemble et en silence à travers la foule agitée. Ils semblaient consternés de cette étonnante et soudaine rumeur et s'interrogeaient du regard à chaque nouveau spectacle de folie qui frappait leurs yeux. Ce mécontentement muet attristait les hommes du peuple et les nombreux paysans venus de leur campagne, qui, tous, cherchaient leur opinion dans les regards des propriétaires, leurs patrons pour la plupart. Ils voyaient que quelque chose de fâcheux se préparait et avaient recours au seul remède que puisse prendre le sujet ignorant et trompé, la résignation et l'immobilité. Néanmoins, le paysan de France a dans le caractère certaines naïvetés moqueuses dont il se sert avec ses égaux souvent et toujours avec ses supérieurs. Il fait des questions embarrassantes pour le pouvoir, comme le sont celles de l'enfance pour l'âge mûr. Il se rapetisse à l'infini pour que celui qui l'interroge se trouve embarrassé dans sa propre élévation. Il redouble de gaucherie dans les manières et de grossièreté dans les expressions pour mieux voir le but secret de sa pensée. Tout prend, malgré lui cependant, quelque chose d'insidieux et d'effrayant qui le trahit. Et son sourire sardonique et la pesanteur affectée avec laquelle il s'appuie sur son long bâton indiquent trop à quelles espérances il se livre et quel est le soutien sur lequel il compte. L'un des plus âgés s'avança, suivi de 10 ou 12 jeunes paysans, ses fils et neveux. Ils portaient tous le grand chapeau et cette blouse bleue, ancien ami des Gaulois que le peuple de France met encore sur tous ses autres vêtements et qui convient si bien à son climat pluvieux et à ses laborieux usages. Quand il fut à portée des personnages dont nous avons parlé, il ôta son chapeau et toute la famille en fit autant. On vit alors sa figure brune et son front nu et ridé, couronné de cheveux blancs fort longs. Ses épaules étaient voûtées par l'âge et le travail. Il fut accueilli avec un air de satisfaction et presque de respect par un homme très grave du groupe noir qui, sans se découvrir, lui tendit la main. « Eh bien, mon père Guillaume Leroux, lui dit-il, vous aussi, vous quittez votre ferme de la Chênée pour la ville quand ce n'est pas jour de marché? C'est comme si vos bons bœufs se dételaient pour aller à la chasse aux étourneaux et abandonner le labourage pour voir forcer un pauvre lièvre. Ma fine, monsieur le comte du Lude, reprit le fermier, quelquefois le lièvre vient se jeter devant Isseux. Il m'est avis qu'on veut nous jouer et je veux en voir un peu comment. Brisons-la, mon ami, reprit le comte. Voici monsieur Fourny, l'avocat, qui ne vous trompera pas, car il s'est démis de sa charge de procureur du roi hier au soir, et dorénavant, son éloquence ne servira plus qu'à sa noble pensée. Vous l'entendrez peut-être aujourd'hui, mais je le crains autant pour lui que je le souhaite pour l'accusé. N'importe, monsieur, la vérité est une passion pour moi, dit Fournier. C'était un jeune homme d'une extrême pâleur, mais dont le visage était plein de noblesse et d'expression. Ses cheveux blonds, ses yeux bleus, mobiles et très clairs, sa maigreur et sa taille mince lui donnaient d'abord l'air d'être plus jeune qu'il n'était. Mais son visage pensif et passionné annonçait beaucoup de supériorité, et cette maturité précoce de l'âme que donne l'étude et l'énergie naturelle. Il portait un habit et un manteau noir assez court, à la mode du temps, et sous son bras gauche, un rouleau de papier qu'en parlant, il prenait et serrait convulsivement de la main droite, comme un guerrier en colère saisit le pommeau de son épée. On eût dit qu'il voulait le dérouler et en faire sortir la foudre sur ceux qu'il poursuivait de ses regards indignés. C'étaient 3 capucins et un récollet qui passaient dans la foule. « Père Guillaume, poursuivit monsieur Dulude, pourquoi n'avez-vous amené que vos enfants mâles avec vous, et pourquoi ces bâtons ?»« Ma fine, monsieur, c'est que je n'aimerions pas que nos tilles apprennent à danser comme les religieuses. Et puis, pas le temps qui court, les garçons savent mieux se remuer que les femmes. » « Nous ne remuons pas, mon vieux ami, croyez-moi, dit le comte, et rangez-vous tous plutôt pour voir la procession qui vient à nous, et souvenez-vous que vous avez 70 ans. » « Ah ah !» dit le vieux père, tout en faisant ranger ses 12 enfants comme des soldats. « J'avons fait la guerre avec le feu roi Henri, et je savons jouer du pistolet tout aussi bien que les ligneux faisions. » Et il branla la tête et s'assit sur une borne, son bâton noueux entre ses jambes, ses mains croisées dessus et son menton à barbe blanche par-dessus ses mains. Là, il ferma à demi les yeux, comme s'il se livrait tout entier à ses souvenirs d'enfance. On voyait avec étonnement son habit rayé, comme du temps du roi Béarnais, et sa ressemblance avec ce prince dans les derniers temps de sa vie, quoique ses cheveux eussent été privés par le poignard de cette blancheur que ceux du paysan avaient paisiblement acquise. Mais un grand bruit de cloche attira l'attention vers l'extrémité de la grande rue de Loudun. On voyait venir de loin une longue procession dont la bannière et les piques s'élevaient au-dessus de la foule qui s'ouvrit en silence pour examiner cet appareil à moitié ridicule et à moitié sinistre. Des archers à barbe pointue portant de larges chapeaux à plumes, marchaient d'abord sur deux rangs avec de longues hallebardes, puis, se partageant en deux files de chaque côté de la rue, renfermaient dans cette double ligne deux lignes parallèles de pénitents gris. Du moins, donnerons-nous ce nom, connu dans quelques provinces du midi de la France, à des hommes revêtus d'une longue robe de cette couleur, qui leur couvre entièrement la tête en forme de capuchon, et dont le masque de la même étoffe se termine en pointe sous le menton, comme une longue barbe, et n'a que trois trous pour les yeux et le nez. On voit encore de nos jours quelques enterrements suivis et honorés par des costumes semblables, surtout dans les Pyrénées. Les pénitents de Loudun avaient des cièges énormes à la main, et leur marche lente, et leurs yeux qui semblaient flamboyants sous le masque, leur donnaient un air de fantôme qui attristait involontairement. Les murmures en sens divers commencèrent dans le peuple. « Il y a bien des coquins cachés sous ce masque, » dit un bourgeois. « Et dont la figure est plus laide encore que lui, » reprit un jeune homme. « Ils me font peur !» s'écriait une jeune femme. « Je ne crains que pour ma bourse, » répondit un passant. « Ah, Jésus, voilà donc nos saints frères de la pénitence !» disait une vieille en écartant sa mante noire. « Voyez-vous quelle bannière ils portent ? Quel bonheur qu'elle soit avec nous ! Certainement, elle nous sauvera. Voyez-vous dessus le diable dans les flammes et un moine qui lui attache une chaîne au cou ? Voici actuellement les juges qui viennent. Ah, les honnêtes gens ! Voyez leurs robes rouges comme elles sont belles ! Ah, Sainte Vierge, qu'on les a bien choisies ! » Ce sont les ennemis personnels du curé, dit tout bas le comte du Lude à l'avocat Fourmier, qui prit une note. « Les reconnaissez-vous bien tous ? » continua la vieille en distribuant des coups de poing à ses voisines et en pinçant le bras à ses voisins jusqu'au sang pour exciter leur attention. « Voici ce bon monsieur Mignon qui parle tout bas à messieurs les conseillers au présidial de Poitiers. Que Dieu répande sa sainte bénédiction sur eux. » C'est Roartin, Richard et Chevalier qui voulaient le faire destituer il y a un an, continuait à demi-voix M. Dulude au jeune avocat, qui écrivait toujours sous son manteau, entouré et caché par le groupe noir des bourgeois. « Ah, voyez, voyez, rangez-vous donc ! Voici M. Barré, le curé de Saint-Jacques de Chinon, » dit la vieille. « C'est un saint, » dit un autre. « C'est un hypocrite, » dit une voix d'homme. « Voyez comme le jeûne l'a rendu maigre, comme les remords le rendent pâle. C'est lui qui fait fuir les diables. C'est lui qui les souffle. » Ce dialogue fut interrompu par un cri général. « Qu'elle est belle !» La supérieure des Ursulines s'avançait, suivie de toutes ses religieuses. Son voile blanc était relevé. Pour que le peuple pût voir les traits des possédés, on voulut que cela fût ainsi pour elle et six autres sœurs. Rien ne la distinguait dans son costume qu'un immense rosaire à grains noirs tombant de son cou à ses pieds et se terminant par une croix d'or. Mais la blancheur éclatante de son visage, que relevait encore la couleur brune de son capuchon, attirait d'abord tous les regards. Ses yeux noirs semblaient porter l'empreinte d'une profonde et brûlante passion. Ils étaient couverts par les arcs parfaits de deux sourcils que la nature avait dessinés avec autant de soin que les circassiennes en mettent à les arrondir avec le pinceau. Mais un léger pli entre eux révélait une agitation forte et habituelle dans les pensées. Cependant, elle affectait un grand calme dans tous ses mouvements et dans tout son être. Ses pas étaient lents et cadencés. Ses deux belles mains étaient réunies, aussi blanche et aussi immobile que celle des statues de marbre qui prient éternellement sur les tombeaux. « Oh, remarquez-vous, ma tante !» dit la jeune Martine. « Sœur Agnès et sœur Claire qui pleurent auprès d'elle !» Ma nièce, elle se désole d'être la proie du démon. « Ou se repente, » dit la même voix d'homme, « d'avoir joué le ciel !» Cependant, un silence profond s'établit partout, et nul mouvement n'agita le peuple. Il sembla glacé tout à coup par quelque enchantement lorsque, à la suite des religieuses, parut, au milieu de quatre pénitents qui le tenaient enchaîné, le curé de l'église de Sainte-Croix, revêtu de la robe du pasteur. La noblesse de son visage était remarquable et rien n'égalait la douceur de ses traits. Sans affecter un calme insultant, il regardait avec bonté et semblait chercher à droite et à gauche s'il ne rencontrerait pas le regard attendri d'un ami. Il le rencontra, il le reconnut, et ce dernier bonheur d'un homme qui voit approcher son heure dernière ne lui fut pas refusé. Il entendit même quelques sanglots. Il vit des bras s'étendre vers lui, et quelques-uns n'étaient pas sans armes. Mais il ne répondit à aucun signe. Il baissa les yeux, ne voulant pas perdre ceux qu'il aimait, et leur communiquer par un coup d'œil la contagion de l'infortune. C'était Urbain Grandier. Tout à coup, la procession s'arrêta à un signe du dernier homme qui la suivait et qui semblait commander à tous. Il était grand, sec, pâle, revêtu d'une longue robe noire, la tête couverte d'une calotte de même couleur. Il avait la figure d'un Basile avec le regard de Néron. Il fit signe aux gardes de l'entourer, voyant avec effroi le groupe noir dont nous avons parlé, et que les paysans se serraient de près pour l'écouter. Les chanoines et les capucins se placèrent près de lui, et il prononça d'une voix glapissante ce singulier arrêt. « Nous, sieurs de Laubardemont, maîtres des requêtes, étant envoyés et subdélégués, revêtus du pouvoir discrétionnaire relativement au procès du magicien Urbain Grandier, pour le juger sur tous les chefs d'accusation, assistés des révérends pères Mignon, chanoine, Barré, curé de Saint-Jacques de Chinon, du père Lactance et de tous les juges appelés à juger y celui magicien. Avons préalablement décrété ce qui suit. Primo, la prétendue assemblée de propriétaires nobles, bourgeois de la ville et des terres environnantes est cassée comme tendant à une sédition populaire. Ces actes seront déclarés nuls et sa prétendue lettre au roi contre nous, juge, interceptée et brûlée en place publique, comme calomniant les bonnes Ursulines et les révérends pères et juges. Secondo, il sera défendu de dire publiquement ou en particulier que les susdites religieuses ne sont point possédées du malin esprit et de douter du pouvoir des exorcistes à peine de 20 000 livres d'amende et punition corporelle. Les baillis et échevins s'y conformeront. Ce 18 juin de l'an de grâce 1639. À peine eut-il fini cette lecture qu'un bruit discordant de trompette partit avant la dernière syllabe de ses paroles et couvrit, quoique imparfaitement, les murmures qui le poursuivaient. Il pressa la marche de la procession qui entra précipitamment dans le grand bâtiment qui tenait à l'église, ancien couvent, dont les étages étaient tous tombés en ruine et qui ne formaient plus qu'une, seule et immense salle propre à l'usage qu'on en voulait faire. Laubardemont ne se crut en sûreté que lorsqu'il y fut entré et qu'il entendit les lourdes et doubles portes se refermer en criant sur la foule qui hurlait encore.